rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
La météo accompagne drôlement bien le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ça fait quand même quelques semaines que j'y pense à ce sujet-là, Max, parce que c'est quelque chose qu'on vit tous à un moment donné si on a eu un animal dans notre vie, que ce soit le chien, le chat familial, que ce soit ton premier animal à toi, t'es parti en appart puis c'était ton compagnon de vie à ce moment-là, il y a un moment où on perd ces petites bêtes-là. Puis il y a un moment où c'est difficile pour certaines personnes puis c'est incompris de d'autres. Le deuil animal, c'est un sujet qu'on traite peut-être pas assez selon certains. Puis récemment, j'ai une amie qui a perdu un chien qui était rendu à comme 15 ans. Il a quand même vécu longtemps pour sa race, faut le dire, là. Oui, quand même. Mais reste que, je veux dire, le cœur en 8, puis de la misère à s'en remettre. Elle aurait voulu demander congé à la job pour prendre un 2 minutes. Là. Mais elle n'a pas osé parce que la perception des gens, tu sais, ben oui, mais c'est juste un chien.
Toi, j'ose même pas t'imaginer le jour où, puis je te souhaite que ça arrive jamais, mais la vie étant ce qu'elle est, il y a malheureusement des bonnes chances qu'un jour tu perdes bonhomme.
Oui.
J'ose même pas imaginer comment. Toi, tu vas prendre off. Là.
Moi, je vais probablement prendre un bon 2 minutes.
Ou tu vas venir puis tu vas brailler pendant 4 heures dans le retour.
Ça va être difficile.
Oui,
puis ça va être difficile.
Je le dis un peu en blaguant, mais à la fois non. Là, ça va être tough. Là.
Aujourd'hui, les animaux prennent une place dans nos vies qui est peut-être démesurée pour certaines personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des animaux dans leur parcours de vie. Mais j'ai le sentiment que c'est un appui émotionnel.
Oui.
C'est de la zoothérapie. Ça devient un membre de la famille. C'est plus comme dans le temps où tu le laissais dehors accroché au bout d'une chaîne avec une niche. Là. On n'est plus là. Et pour jaser de ce sujet-là, j'avais la personne parfaite en tête. Natacha Barrette, que vous avez déjà entendu en passant dans l'open mic. Elle est vétérinaire fondatrice de Mon Vet à la maison, spécialisée dans l'euthanasie à domicile, donc à mon sens, le deuil animal aussi. Natacha, bon matin. Est-ce que c'est considéré comme un vrai deuil, le deuil animal aujourd'hui?
Oui. Ouais, hein? Oh oui, je peux vous en témoigner.
Écoute, j'en doute pas. Je sens que ceux qui l'ont vécu, justement, peuvent en témoigner, mais les gens qui n'ont jamais eu d'animaux dans leur vie, c'est comme voyant. On a un compagnon, d'ailleurs, en studio. Il avait envie de jaser.
Elle a son mot à dire, elle aussi.
Eh bien, d'accord qu'on me dit. Mais non, c'est ça, c'est vraiment une perte qui peut faire aussi mal que n'importe quel autre deuil.
Oui, puis je vais même m'avancer en vous disant que beaucoup de gens me témoignent, parce que moi, les accompagnant pendant ce moment aussi intense, me témoignent. Exemple, j'ai même pas pleuré quand j'ai perdu, par exemple, mon grand-parent, quand j'ai perdu même des fois leurs parents. Mais pour mon animal, je suis démolie, tu sais. Puis évidemment, je veux pas dire que les animaux, sont supérieurs aux humains ou quoi que ce soit, là, c'est pas l'objectif.
Non, le point pas là, là.
Dans le fond, c'est l'attachement qu'on a, la qualité de la relation qu'on peut avoir avec notre animal qui va déterminer l'ampleur et la difficulté qu'on va avoir avec notre deuil.
Le trou que ça va laisser.
C'est ça.
Pourquoi il y a certaines personnes qui minimisent encore la peine qui est liée à la mort d'un animal? Ou du moins, c'est ce qu'on sent. T'sais, je le disais, il y a des gens qui n'osent pas prendre leur petite journée de congé ou leurs 2 minutes quand ça arrive.
Oui, mais je pense que ce n'est pas juste pour le deuil animalier. On a de la difficulté à s'absenter du travail pour notre santé mentale en général. Si c'est un problème de nature physique, on a la gastro, la grippe, on n'est pas gêné, mais quand ça touche le mental, l'émotionnel, on dirait que ça, c'est rempli de tabous, de non-dits, on est vu comme des faibles, puis on ne veut pas, tu sais, on ne veut pas s'exposer au jugement des gens, alors que c'est tout à fait dans l'ordre des choses, ça aussi.
Est-ce qu'on s'attache plus à certains animaux qu'à d'autres? Plus, ça a l'air d'une drôle de question, mais...
Le poisson rouge, j'aurais tendance à penser que le poisson rouge...
C'est un exemple, ou le serpent, ou...
Tu sais, que tu peux pas flatter tant que ça, alors que, mettons, un chat qui vient se coller sur toi chaque matin, un chien avec qui tu joues chaque jour...
Oui, c'est sûr qu'il y a des espèces avec lesquelles on a effectivement plus d'interaction ou plus d'intimité. Tu sais, le chat ou le chien qui dort dans notre lit, sur qui on se colle, sur qui on se réconforte quand on a de la peine, bien, c'est sûr que l'intensité de la relation va probablement être plus forte que celle d'un poisson rouge. Mais moi, j'observe quand même beaucoup de gens me parler de leur espèce animale que moi, je comprends juste pas, moi non plus, que ce soit un lézard, par exemple, que tu regardes vivre dans son mini habitat, puis j'ai de la misère moi-même à saisir l'attachement qu'ils peuvent avoir. Fait que j'essaie de pas juger parce que je me dis il y a quelque chose peut-être qui m'échappe à moi. Ces espèces-là ne m'attirent pas, mais je vois quand quand même que des gens qui ont un fort attachement à toutes les espèces, s'ils choisissent de les entrer dans leur vie puis d'en prendre soin, c'est parce qu'en quelque part, ils ont un attachement, sinon ils ne le feraient pas.
J'avais des grenouilles naines, moi, quand j'étais jeune. Puis quand mes grenouilles naines mouraient, j'étais triste.
Ben, tu vois, c'était des hamsters.
Mais tu vois, même hamster, on dirait, tu sais, hamster, tu dois le prendre. Tu...
Ouais,
je pense
non,
à
tu
ça,
joues
des,
avec.
Des grenouilles naines. Tabarouette. Mais en même temps, je rien contre les gens qui ont des grenouilles naines. Ils peuvent être en grand deuil. J'étais un de ces individus quand j'étais jeune.
J'ai le sentiment que c'est peut-être juste le peu importe ce que c'est le fait que quelque chose. Tu sais, puis j'ai l'impression, c'est peut-être, puis tu me dis, Natacha, si je me trompe, mais j'ai le sentiment que souvent, quand on va aller chercher un animal, où il y a beaucoup de gens que ça vient combler quelque chose. Mm. C'est pas juste on est rendu dans la vie, il me semble que ce serait cool d'acheter un chien. Tu sais, généralement, il y a des gens qui ont comme un besoin quand ils vont chercher un animal, puis probablement que ce besoin-là est supporté pendant des années. Mm. Puis quand tu perds l'animal, au-delà de la peine de perdre ton toutou, ton chat, peu importe...
Tu perds une présence tout le temps. Mettons,
tu
là,
perds un support.
Tu sais, si moi, en tant que gars qui habite tout seul, tu sais, je pense souvent à m'adopter un chat. Mais mettons que j'adopte un chat puis je continue de vivre seul, mais avec pendant 5 ans, puis qu'au bout de 5 ans, ben il décède. C'est sûr que tu...
C'est à l'envers.
Bon, c'est clair. Mm-hmm. Puis même si tu te ramènes un chat, ça sera pas le même, ce sera pas pareil, ce sera pas aussi colleux. Et...
C'est, ça, c'est-tu... j'entends souvent des gens dire « Ah, t'es mieux de prendre le temps de faire vraiment le deuil de ton animal avant d'en acheter un autre.
Oh. » Adopter, on dit pas acheter.
Oui, adopter, excusez-moi.
Hein, j'y étudie.
C'est malheureux, mon pimpo.
Je pense que chaque situation peut être différente. Ouais. Comme chaque deuil est différent entre individus, mais même pour une même personne, au moment où on va faire un deuil, peut-être dans la jeune vingtaine, d'un animal qu'on a eu depuis notre jeune âge versus quand on est rendu peut-être à 40 ans, on n'est pas au même endroit au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on a pu vivre. Fait que ces deux deuils-là, pour la même personne, peuvent être totalement différents. Certaines personnes ont ce besoin. Ils ont déjà peut-être cheminé aussi un peu avant et ont ce besoin de tout de suite se projeter dans un nouveau projet qui est d'avoir un animal. Mais pour d'autres, ils ont besoin de cette coupure-là. Mmh. Ils ont besoin de guérir ce qu'ils ont à guérir, je peux dire, avant de recommencer une relation qui va être très profonde et qui est sérieuse, qui est importante. Fait qu'on veut pas faire les choses à moitié non plus. Mmh. Mais j'aimerais ça revenir un peu tantôt quand vous parliez du deuil. Quand on perd un animal, on perd évidemment notre compagnon, mais il y a aussi comme une espèce de... Je vois beaucoup de gens qui font la rétrospective de ce que leur vie a été au contact de cet animal-là. Ils vont repenser à quand ils se sont séparés, puis que l'animal était là, puis quand ils sont partis de la maison, puis que l'animal était là. Puis ils vont souvent faire le deuil de leur animal, mais aussi ils vont tomber dans une espèce de nostalgie aussi, où ils vont voir à quel point ils ont cheminé beaucoup. Puis pour d'autres aussi, puis ça, c'est, je dirais, la chose qui à chaque fois me détruit un peu, puis je vais avoir de la misère même à vous le dire. Pour certains, c'est le dernier aussi.
Ah!
Il y en a pour qui, puis souvent, ça va être des gens qui sont rendus à un certain âge, qui sont très conscients qu'un engagement qui va durer 10, 15 ans, ils ne sont plus là dans leur vie. Puis c'est leur dernier. Puis ça, là, c'est aussi de faire le deuil de là où tu es rendu dans ta vie. Ça, à chaque fois, ouf, je trouve ça... ça me rend émotif, parce que quand il me le dit, je me dis, moi aussi, un jour, je vais être rendu à mon dernier. Je regarde Babette, là, elle est bien en vie, elle a 4 ans, elle est en forme, elle est là pour un bout. Mais tu sais, c'est triste. Ils font le deuil du passé, mais ils font aussi le deuil du futur en quelque part. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment touchant.
Pis c'est vrai qu'on y pense pas souvent, ça. J'allais te demander, Natacha, tu as fondé Mon Vet à la maison, parce que tu es vétérinaire depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi l'euthanasie à la maison? On a tendance à se dire souvent, tu vas porter ton animal chez le vétérinaire ou tu fais ça chez le vétérinaire, eux s'en occupent. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te dire, regarde, moi, je vais commencer à faire ça vraiment dans le milieu de confort de l'animal?
Ouais. Bien, je vais parler pour moi, là, mes motivations. Je voulais offrir une expérience différente aux gens. Je l'avais expérimenté dans le cadre de mon travail, évidemment, de faire de l'euthanasie en clinique. Je l'ai fait aussi longtemps dans un centre d'urgence et je l'ai fait aussi à domicile. Fait que j'étais en mesure de vraiment voir comment ces expériences-là étaient différentes. Puis à quel point, je pense vraiment que pour le deuil de l'humain, le fait de le vivre à la maison va avoir un côté qui va favoriser, faciliter le deuil, parce que ce souvenir-là, on l'a pour toujours. Hein? C'est, on va souvent, avec le temps, oublier, bon, la première fois qu'on l'a eu, ah ouais, on va se rappeler cette journée-là. On se rappellera pas les premiers vaccins ou quand il s'est fait stériliser ou peu importe les petits événements, là, de 7 à 2 ans. On va tout finir par oublier ces choses-là. Mais les derniers moments de notre animal, on va s'en rappeler pour toujours. Puis ce souvenir-là, c'est un peu comme un petit bout de film qu'on va en voir dans notre tête. Bien, on peut choisir que ce bout de film-là soit peut-être plus réconfortant quand on va y repenser. Ceci dit, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de faire ça dans leur intimité, qui se disent, je ne veux justement pas que le bout de film, ça soit dans mon salon ou chez moi, dans ma maison. Je ne veux pas y repenser à chaque fois que je vais être dans cette pièce-là. Puis ça aussi, je peux comprendre. Puis de toute façon, les cliniques vont toujours continuer d'offrir le service, là. Puis il y a beaucoup de cliniques qui ont des salons d'euthanasie qui rendent l'expérience quand même très, beaucoup plus chaleureuse,
mais
plus
ça,
humaine.
Je trouve ça le fun que ça a évolué parce que moi, je me souviens, le chien familial, puis j'étais quand même très jeune là, quand on l'a perdu. Puis je me souviens que Pollux, de son nom, quand on l'a fait euthanasier, c'est un petit shih tzu, c'était vraiment drôle. Elle, lui, il faisait de l'épilepsie. Puis il avait dû lui donner un gaz avant de l'endormir pour de bon parce que ça pouvait faire déclencher une crise plus d'une mort qui n'est pas si plaisante que ça. Là. Mais tu sais, tu dis, Natacha, les dernières images te restent en tête. Je veux dire, moi, quand je pense à ce chien-là, ces images-là, puis c'était sur une table de métal bien frette chez le vétérinaire. Là, y avait pas, c'était pas cute. Là. Fait que je trouve ça le fun que ça ait évolué parce que moi, la dernière image plus jeune que j'ai de mon premier chien, c'est quand on l'a fait euthanasier, puis c'est pas des images qui sont plaisantes non plus à garder comme souvenir. Fait que je trouve ça le fun qu'au moins ça ait évolué même en centre vétérinaire.
Oui, c'est ça. Puis en clinique, c'est sûr qu'en ayant un salon d'euthanasie, puis en ayant aussi une certaine évolution de la part des équipes vétérinaires, là, à savoir que ce moment-là, pour nous, ça reste quand on est dans notre cadre de travail, ça reste un rendez-vous avec une technicalité qui entoure le rendez-vous. Mais il faut, les équipes sont de plus en plus sensibles au fait que non, mais c'est les derniers moments de cette famille-là. Fait, on va mettre beaucoup d'attention. Des fois, il va y avoir une petite chandelle qui va brûler dans la salle d'attente avec un petit mot à côté qui dit « Si cette chandelle-là est allumée, c'est qu'une famille qui est en train de vivre. » Oui, c'est ça. Fait que ça fait que les gens, s'ils voient quelqu'un qui sort en pleurant, ils vont éviter de dévisager. Ils vont comme... On essaie de rendre cette expérience-là, quoi que ça reste en clinique, qu'on n'est pas capable de tout enlever, là, les paramètres qui peuvent rester en tête. Mais on essaie de faire en sorte qu'au moins les familles vont vivre une expérience qui va être plus réparatrice.
C'est une drôle de question parce que ça semble cru, mais je pense aux gens peut-être qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de comment ça peut se passer à la maison. Là. Comment ça se passe concrètement, le processus d'euthanasie?
L'aspect plus technique.
L'aspect, oui, plus technique de tout ça, tu sais. Parce que moi, je pense à mon chien, quand tu vas dans un centre vétérinaire, quand tu vas en clinique, là, il est toujours bien, bien stressé. Fait que probablement que j'opterais pour à la maison, ou du moins dans un endroit où je sais qu'il va être confortable. Mais tu sais, j'imagine que tu n'arrives pas juste avec ton kit pic puis bye-bye.
Non, c'est vraiment un tout autre déroulement. En fait, quand j'arrive, je dis toujours aux gens, moi, je me présente un peu comme si j'étais une amie qui vient prendre un café, tu sais. Dans le sens que j'arrive, on prend le temps de jaser, les gens m'accueillent souvent en pleurant. De toute façon, donc je leur donne un petit peu de temps là, pour décanter ces grosses émotions-là. Puis on jase, tu sais, bon, souvent, ils vont vouloir me parler de la vie de leur animal. Ils vont me parler des autres animaux qui sont présents aussi. Puis moi, je me sers beaucoup de l'environnement pour m'accrocher à des sujets que je pense qui va les aider à mieux vivre. Tu sais, je vais voir, mettons, une photo dans le salon avec le chien puis toute la famille. Puis là, je vois qu'il y a deux jeunes personnes. Je vais vous avez des enfants. Puis tu sais, je vais essayer de diversifier un peu la discussion pour essayer de les amener à se calmer. Puis on va vraiment se poser, finalement, à mon arrivée. Après ça, bon, évidemment, techniquement, il faut savoir que moi, je fonctionne, puis c'est vrai pour la majorité des vétérinaires, avec deux injections. Donc, la première, qui est le sédatif, qui a comme objectif d'amener l'animal dans un état de détente psychologique, physique, un antidouleur si jamais il y a des inconforts. Donc, l'animal va vraiment être tellement bien que lorsque je vais injecter la deuxième dose, l'euthanasique, son ressenti ne sera pas négatif. Il n'y aura pas de stress à entendre le bruit, par exemple, d'un rasoir ou est-ce que je touche sa patte. Ça va être vraiment très, très détendu et ça permet à l'animal de partir dans des bonnes circonstances, mais aussi aux familles d'observer leur animal qui les quitte, un peu comme s'il est en train de s'endormir. Mmh. Évidemment, j'aime pas utiliser le mot s'endormir, surtout quand je m'adresse à des enfants, parce que c'est important qu'on comprenne que c'est pas un dodo, là, non, il est pas en train de dormir.
Non, c'est ça, là.
Faut pas les
mélanger. Dodo paternel, là.
C'est ça. Mais il reste que visuellement, ça peut ressembler à ça, là, comme image. Fait qu'on voit pas un animal qui se débat, qui allaite parce qu'il a peur ou, tu sais, quoi que ce soit. Ça se fait de façon très graduelle et paisible. Donc...
Ouais. Comment on prend la décision de faire euthanasier son animal? Parce que j'ai le sentiment que souvent, il y a une culpabilité qui vient au moment de prendre cette décision-là. On prend-tu la bonne? T'es pas dans le corps de ton animal? T'as l'impression qu'il souffre? Il souffre-tu vraiment? T'sais, c'est... Souvent, j'entends ça. Ah oui, il y a des bosses partout sur le corps. Il est bien malade, il est bien au ralenti, mais le vétérinaire m'a dit qu'il souffrait pas. Là, fait qu'on le garde le plus longtemps possible. Ouais. Quand est-ce que tu mets un stop? Puis comment t'évites cette culpabilité-là?
Bon. La culpabilité, là, dans la décision d'euthanasie, c'est le mot qui revient le plus souvent. Puis je vous dirais, même quand tous les éléments sont là devant nous, que tout est clair comme de l'eau de roche, c'est hyper difficile, hyper rare que je vois quelqu'un qui n'en vit pas. On a vraiment l'impression, tu sais, de prendre la décision au nom de notre animal, puis ça, c'est difficile. Je le cacherai pas. Maintenant, l'équipe vétérinaire, justement, le vétérinaire qui a examiné notre animal à de multiples reprises, ou les techniciens et techniciennes qu'ils connaissent bien, peuvent nous guider. Il y a aussi la possibilité sur Internet de trouver des grilles d'évaluation de qualité de vie. Ça vient compléter le travail que les équipes vétérinaires, parce que c'est des observations plus du quotidien, des choses sur son environnement et ainsi de suite. On soutient. Il y a moyen, il ne faut pas être passif hein, dans cette décision-là, il faut être très proactif. Il faut aller poser les questions, il faut se les poser, puis il faut s'outiller. Puis les outils, ils existent, ils ne sont juste pas si connus que ça. Mais c'est tout un tout. Puis il y a la capacité de la famille aussi à continuer. Hein. Des fois, on ne faut pas non plus s'oublier complètement dans l'équation de la décision parce que c'est cette famille-là qui doit, par exemple, soulever le chien de 60 livres qui n'est plus capable de marcher. Puis si, à un moment donné, on est pour se faire une hernie discale puis qu'on est le pourvoyeur de la famille, ça peut avoir des conséquences graves. Ceci dit, je ne dis pas que, bon, il y a moyen des fois d'accommoder beaucoup, mais à un moment donné, quand on a atteint notre limite, qu'elle soit financière, psychologique, émotionnelle, physique, il faut aussi en tenir compte. C'est peut-être pas l'élément primordial. Il y a l'animal en premier, mais il y a nous autres aussi là-dedans.
J'ai envie de te demander en terminant, Natacha, avant l'euthanasie, avant le deuil, avant tout ça, là, il y a la vieillesse de l'animal. Il ne faut pas penser directement à sa mort. Puis on a déjà jasé ensemble du confort, justement, de la vieillesse. Je sais que tu as créé des outils, un en particulier, pour nous aider à apaiser, justement, la vieillesse d'un animal, à s'adapter aussi à ça. Veux-tu nous rappeler c'est quoi les outils?
En fait, j'ai créé un site web éducatif qui s'appelle Mon ami Nala. Et qui j'essaie de regrouper toutes les références possibles qui ont rapport avec le vieillissement, mais aussi à la prise de décision là, de l'euthanasie, mais qui va guider finalement un peu les gens dans tout ça. J'ai aussi créé récemment une application d'évaluation de qualité de vie qui est en français, parce que c'est ça le problème des évaluations de qualité de vie. On retrouve beaucoup de documentation en ligne, mais malheureusement principalement en anglais et sous format papier. Fait que moi, j'ai créé une application qui s'appelle À l'écoute de Nala, qui permet aussi là, de s'outiller là, puis d'en savoir un peu plus sur où on en est rendu.
Natacha Barrette, vétérinaire et fondatrice de Mon Vet à la maison, spécialisée dans l'euthanasie à domicile. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Audrey Pinchot, on t'écoute à 14h dans le retour.
Je pense à mon chien, là, j'ai le cœur brisé.
Ah, t'es sur le bord de pleurer?
Ben non, mais je trouve ça, c'est des sujets qui sont quand même...
Oui, je sais, oui.
Moi, je te dis, là, il y a 6 ans et demi, le mien. Là. C'est un Golden Retriever, fait qu'ils disent que comme ils vivent entre 8 et 10 ans, là, moi, je prie pour qu'ils vivent jusqu'à 12. Là. Mais tu sais, est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Le mien, il est rendu blanc, là. Tu sais, fait que tu le vois aller, tu vois ses habitudes changer, tu vois qu'il a plus de misère à courir, tu vois, c'est des choses auxquelles il faut penser, même si c'est pas nécessairement le fun. Fait que 88-971-1021, je sais qu'on a plusieurs des auditeurs, des fois, qui se confient justement sur la perte d'un animal. Si vous avez des questions, là, vous pouvez vous rediriger directement vers Natacha. Elle a carrément sa page Facebook, Mon Vet à la maison, vous avez plein d'informations là-dessus aussi.
Merci beaucoup, Audrey. Au retour, la chronique de Nathan Meilleur, une nouvelle habitude qu'on va prendre vers la fin du Point de Max et Bulletin de nouvelles avec Mathias Turcotte.
L'Open Mic avec Audrey Pinchot présente...